France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle.
Allez, action !
Action, pourquoi faire ?
Il faut qu'une image se transforme au contact d'autres images, comme une couleur au contact d'autres couleurs. Une définition poétique du montage signée Robert Bresson. Le montage, cette étape capitale d'un film, sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Un duo dans une salle, le cinéaste et son spectateur zéro, le ou la monteuse. Un espace sans témoin, de là sortira le film. Ce matin, nous avons choisi deux duos. Bonjour Mathieu Malric.
Bonjour.
À vos côtés, votre compagnon de route pendant toutes ces heures, tous ces films que vous avez réalisés et puis montés avec lui. Bonjour François Gédigier.
Bonjour.
Vous qui avez un parcours impressionnant, c'est avec lui à Malric, dites-vous, que vous prenez le plus de risques. Autour de la même table, une autre génération, un autre attelage. Bonjour Jean-Baptiste Durand.
Bonjour.
Couronné récemment au César pour votre premier film, Chien de la casse, une première fois aussi avec elle, votre monteuse. Bonjour Perrine Descartes.
Bonjour.
Parler du montage à la radio, ouïouïoui, c'est un gros défi pour nous. L'occasion, c'est ce festival, Les Monteurs s'affichent, 6e édition, à Paris, au cinéma Luminor, Hôtel de Ville, du 13 au 18 mars. Enfin, les sorties de ce mercredi, de belles propositions de Blue Giant à la salle des profs. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Je sais pas, Justine, j'ai envie de m'adresser un petit peu à toi. Je sais pas si tu te souviens. Lors du premier jour de montage, j'évoquais la durée du film, comme ça, de façon légère. Et avec ton langage un peu fleuri, tu m'as dit, t'as fermé la porte et tu m'as dit, Laurent, c'est mon 4e film. Et j'ai envie de prendre mon temps. J'ai envie de prendre mon temps dans le film. Et je ne laisserai aucun connard venir dans cette pièce et m'expliquer quoi faire. Ça mettait un peu l'ambiance.
Laurent Sénéchal, le monteur d'Anatomie d'une chute de Justine Triet, récompensé au César. Et tout de suite, cette question à tous les quatre. Aucun connard n'entre dans votre salle de montage, Mathieu Malric, en dehors de votre monteur.
Ah, donc si. Concrètement, de qui s'agit-il?
Ouais.
Ah non. Déjà, on choisit avec qui on travaille.
Oui,
la relation avec la production, c'est magnifique.
Mais d'autres professions entrent. Bah, François Gédigier, d'autres personnes que vous et Mathieu Amalric entrent dans votre salle de montage?
Non, peut-être, peut-être à la fin les gens pour le son,
ouais,
ou le chef opérateur. Donc il peut. Parfois les gens sont surpris de la façon dont les choses ont été agencées. Après montage.
Mais vous comprenez ce duo, Jean-Baptiste Durand, de cinéaste, monteur et personne d'autre?
Oui, je comprends. Après, c'est son duo avec Justine Triet.
Vous, il y a des connards qui sont rentrés?
Bah, moi, je m'entoure pas de connards, donc. Concrètement, il y a la compositrice Delphine Malocena,
ouais,
qui est rentrée. C'était important. Il y avait vraiment. On travaillait en parallèle presque depuis la première semaine de montage avec Delphine. Quelqu'un d'autre qui est pas du tout une connasse, Anaïs Bertrand, la productrice,
voilà, il me semble,
qui avait le droit de visite, évidemment. Après, c'est à des moments, quoi. Des moments, et personne doit rentrer, des moments, au contraire, on invite des collaborateurs ou des collaboratrices, voir des regards extérieurs en fin de montage ou sur des moments.
Perrine Bécart, donc c'est un duo, un couple qui devra donc pendant plusieurs semaines vivre ensemble, parler, argumenter et même vivre des tensions, parfois pour sortir. C'est ça l'essentiel. L'important, c'est pas d'avoir tort ou raison, c'est de sortir un film.
Oui, je pense que c'est pas, on n'est pas, il faut pas faire son montage pour y mettre son ego et se placer à un endroit où on nous attend pas. Oui, ce duo-là, il est important. C'est une intimité qu'on crée aussi parce qu'on est tous les jours ensemble, qu'on cherche un film, qu'on est là pour aider le réalisateur à retrouver l'âme de son scénario. Et s'il n'y a pas de fluidité dans les rapports, je pense qu'on ne peut pas la retrouver au montage non plus.
On discute dès le départ, Mathieu Amalric, avec son monteur, de ce dont on a envie, de ses intentions. Comment ça se passe? Il y a une grosse discussion au départ?
Non, surtout pas.
Ah bon?
Non, il faut tuer les idées.
Ouais.
Parce que le problème, c'est les idées. C'est les principes. vous écrivez un scénario, vous avez une structure absolument magnifique, et puis après le tournage...
Détruit tout ça
Non, pas détruit, parce que...
C'est Truffaut, hein, quand même, qui disait qu'on...
Oui, bien sûr.
Disons
que c'est... Tout d'un coup, il y a les acteurs, les actrices,
ah oui.
Voilà. Bon, et puis après, eh ben, c'est ça qui existe. Et c'est ça, je crois, que François aime le plus. François est quelqu'un qui a une connaissance des acteurs, de ce qu'ils sentent, ce qu'ils sont en train d'essayer de jouer ou pas.
François Gédigé, c'est la troisième écriture d'un film, après effectivement le scénario, le tournage... Donnez-nous une définition du montage.
Non, mais c'est vrai. Simplement.
Très, très simplement. En dehors de, effectivement, d'associer des images entre elles.
C'est comme un mécano. Je sais pas si vous voyez ce qu'est un mécano, un jeu de construction. Et on a plein de bouts. Des bouts de machin, hein, qui sont parfois, enfin, voilà, des bouts de machin. Et on va essayer d'organiser ces bouts de machin, de les choisir pour raconter une histoire. Et voilà. Et donc,
qu'on pourrait raconter une autre histoire,
oui.
Ou d'autres histoires.
Oui, dans certains cas, on peut changer, on peut changer les choses, mais on va pas contre. Ce qu'il faut retrouver, c'est en fait la première idée, l'idée qui était là avant même l'écriture du scénario.
Oui.
Parce qu'ensuite, il y a une telle dérive, parfois dans le bien. Et
on la lâche en route, quoi.
Il y a une dérive au tournage, parfois un acteur un rôle qui paraissait mineur parce que l'acteur est formidable. Donc il faut suivre ça, il faut accompagner ça. Et voilà, c'est choisir. Et puis il y a un moment où cette petite mécanique, ou la petite grue, là, dans le mécano, se met à marcher. Et là, c'est une satisfaction rare.
Il y a deux écoles. Il y a le montage qui ne se voit pas, fluide, plutôt, que vous avez appris auprès de Albert Jurgenson à vos débuts, et puis à l'école aussi de Day, qui doit où les cassures doivent se voir, les changements de rythme, pour laquelle vous votez, vous, les deux écoles.
Moi, j'ai eu la chance de travailler avec les deux, avec Albert et Yann. Donc, en fait, moi, je n'ai pas d'école. C'est vraiment le film qui décide. En fait, il n'y a pas de. C'est vrai que par peut-être caractère, j'aime bien que les choses soient fluide, discrète, etc. Mais le film, ça dépend vraiment du film. En fait.
Perrine Bécart-Godard disait, si mettre en scène est un regard, monter est un battement de cœur.
C'est la définition que je préfère.
C'est vrai ?
C'est vrai. Vous la placez avant moi. Mais oui, parce que je pense que c'est vrai qu'on a plein de leviers sur lesquels on peut jouer, déplacer des séquences, les réduire. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Mais ce qu'on apporte, nous, c'est une sensibilité, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du rythme et de quelque chose d'interne. Et ce battement de cœur, c'est ce qu'il y a de plus parlant, je trouve. C'est vrai, on peut pas le palper, c'est quelque chose qu'on ressent. Quoi, quand on regarde peut-être 10 minutes de rush, on a un moment où on va être bouleversé et on va construire autour de ça. Donc je trouve que c'est la meilleure définition du montage. Ouais.
Jean-Baptiste Durand, le monteur, c'est le spectateur zéro, je disais. Ça doit rester un spectateur, et qui ne va pas au tournage d'ailleurs pour la plupart du temps.
Bah oui, complètement. Mais c'est pour ça que Perrine parlait de sensibilité. Je pense que le montage, on n'est pas dans la théorie ni dans l'intelligence. C'est ça marche, ça marche pas. On est touché, on n'est pas touché. Point à la ligne. Et du coup... Évidemment que le monteur ou la monteuse, c'est notre première... D'ailleurs, je t'appelais pendant le tournage parce que tu voyais les rushs. Pardon, j'ai dit à Perrine. Et je dis, alors, qu'est-ce que t'en as pensé face à son premier regard et était fondamental. Et son dernier aussi, d'ailleurs.
Ouais. Le début d'un film, c'est très important. La première scène, c'est capital. D'ailleurs, elle se choisit pas forcément au début d'un montage.
Non, puisque en général, on essaye quand même de monter d'après l'ordre du scénario. Mmh. Voilà, on monte ça.
Mais on peut avoir une idée après sur le début.
Mais ce qui se passe, c'est que en général, si on monte dans l'ordre du scénario, ça ne va pas. Même sur les scénarios qu'on cette fameuse histoire du scénario béton.
Ouais.
En fait, si vous mettez les trucs, ce qui serait assez simple, d'enlever les claps et de mettre les trucs dans l'ordre des numéros, eh bien, ça ne marche jamais. Donc, il peut arriver effectivement que ce qui était la première scène devienne la dernière. Et voilà.
Alors, on a choisi les deux débuts de vos deux films, donc il y a Chaîne la case, Jean-Baptiste Durand, et Barbara, le vôtre, Mathieu Amalric. On va écouter ce début. C'est un choix très radical. C'est du noir avec la voix de Barbara.
Bon, disons que c'est Paris, c'est un matin de novembre, c'est un matin qui n'est pas encore froid, novembre, c'est encore ensoleillé, mais c'est quand même frileux. Et c'est un matin de novembre avec un temps de mars, en fait. Tu vois, je suis bon, mars, oui, pluie. Il y a un petit soleil comme ça, une petite pluie. Et c'est dans Paris, c'est une marche très lente, une traversée de Paris. C'est noir, hein. C'est comme une longue, une file, une grappe comme ça, qui, tu vois, lourde de gens, ou pas de gens, en fait, tu vois, bon. Et ça s'écoule comme ça très lentement. Enfin, c'est sombre quand même ça, tu vois. Et je voyais une chose qui ferait comme ça. Tu vois, à la fois comme une, je sais pas, enfin, comme une espèce de lente prière.
Après ce noir, il y a un très beau raccord au piano avec Jeanne Baliba. Il faut dire que bon, c'est une actrice qui va jouer Barbara. Le tournage commence bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions. Ça avance, ça grandit et ça l'envahit. Et pourquoi choisir de nous mettre dans ce noir dès le début, Mathieu Amalric?
Alors, c'est pas du tout du noir, parce que c'est le générique.
Oui,
c'est le magnifique travail d'Olivier Marchesi.
Ouais,
en fait, là, le montage, le battement de cœur,
oui,
c'est le piano qu'on entend.
Ouais.
Et ça a été énormément de travail de montage pour que l'apparition des lettres au début,
oui,
on voit bas. Et en fait, ça va pas être Barbara, ça va être Balibar.
Ouais.
Déjà, ça raconte un truc. Et c'est la pulsation du piano crée le montage de ce générique. J'aime beaucoup les génériques.
Mais oui, et vous aussi, François Gédigier, vous aimez beaucoup les génériques?
Bah, j'aime beaucoup les génériques, mais je dois dire que Mathieu a vraiment une attention à ça et que c'est un truc auquel il travaille. Avec Olivier, c'est vraiment leur monde et voilà, après...
Ensuite, il y a le début de Chien de la casse, donc c'est l'histoire de Dog et Miralles, amis d'enfance dans un petit village du sud de la France. Ils traînent le plus souvent jusqu'à l'arrivée d'Elsa, dont va tomber amoureux Dog. Alors, votre début, c'est une musique particulière, assez grave, avec un plan de nuit du village. On écoute cette musique.
Il a quoi, moi, la barre à l'œil?
Oh! Vous n'avez pas regardé, hein?
Ah, si. Moi, personnellement, je vote extrêmement fort. Je ne sais pas ce que font les autres.
Pas fort du tout.
Pas fort du tout?
Fort. Très fort.
Pas fort, le pauvre.
Moyen.
Cette musique a fait débat, m'aviez-vous dit, Perrine? C'est-à-dire qu'il fallait installer un climat dès le départ, et cette musique installe un vrai climat.
Oui, en fait, c'est vrai que le début, comme vous disiez, c'est très important. Enfin, tout est très important dans un film, mais c'est vrai que le début, on donne un peu la grammaire du film, et on la cherche. Et je me rappelle qu'au scénario, il y avait une scène de la plaine, enfin où Miralles était avec Malabar dans la plaine. Où
la balle à Babar.
Celle-ci même. On a fini par enlever parce que quoi, il y avait quelque chose de peut-être un peu de l'ordre de la comédie dans cette séquence. Et avec le travail de Delphine Malocena, elle nous a proposé une musique pour ce début qui nous a donné une évidence sur quoi, qui amenait quelque chose presque de l'ordre de la tragédie, quoi, composé d'emblée, et que ce premier plan devait être le village, quoi, qu'il y avait quelque chose, moi, qui me fait maintenant, avec le recul, un peu penser à, quoi, un truc un peu shakespearien, quoi, de famille égale en noblesse, dans la belle Vérone où se placera notre scène. C'est dans le Beaupouget, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi, où on place le code, quoi, la tragédie même si c'est pas un film tragique, mais il y a des codes, quoi, de la tragédie qui s'installent à des endroits.
Ça venait de déréaliser aussi, on rentrait en champ contre champ.
Oui, aussi.
Et je voulais pas que ce soit une chronique naturaliste, mais que dès le départ, il y ait cette poétique qui soit installée. Et puis le premier plan qu'on voit pas, vu qu'on est à la radio, c'est un peu inspiré de L'Empire de la Lumière de Magritte, où on a ce ciel de jour et cette maison de nuit, là, le village est de nuit, mais on se perçoit encore le jour du ciel. Et c'était vraiment donné cette idée que. Il y a un drame naissant, c'est pas une chronique. Voilà.
Il y a beaucoup d'enjeux aussi sur Barbara, Mathieu Amalric, parce que c'est un tournage dans le tournage, c'est des archives, c'est une musique, c'est pas un biopic.
Il n'y a pas d'histoire.
Il n'y a pas d'histoire. Et puis surtout, il fallait, pour ça j'ai dit Gier, il fallait mixer les images d'archives avec les images du tournage. Il fallait mixer Barbara et Balibar. C'était compliqué ça.
Non. En fait, non. Ça, c'est amusant. C'est amusant à faire. Mais c'est pas compliqué. Après, on a même, c'est-à-dire à l'étalonnage, au moment où on règle les lumières et le grain de l'image, on a même laissé. On aurait pu absolument fluidifier tout ça, faire que tout soit absolument la même qualité. Et en fait, on a gardé une certaine différence infime quand même. Parce que voilà, on n'est pas dupes. Il y a quand même, c'est quand même Balibar. Et...
On écoute cette scène en voiture justement avec les deux Barbara.
Alors là, c'est en français par le plus bas, car il pourrait bien nous comprendre. C'est pas super sûr.
Pour ma fouche, moi j'aime bien une petite bouillabaisse.
Une bouillabaisse à Châteauroux? Bon, y a quoi à voir à Châteauroux sinon?
Non, mais on peut pas visiter une ville et puis aller chanter après ça. Je sais pas, on peut pas.
Parce qu'alors, on dépense une énergie et on déconcentre. Je pourrais pas, enfin, je voudrais bien faire les deux. Je pourrais pas être propre et être touché par les choses. Parce qu'on est bouleversé dans la rue par les choses, alors ça prend l'énergie et.
Non. Moi, j'ai besoin d'aller directement, là, comme les chevaux, hop.
C'est après l'Indien, le rouge que vous voulez, dont vous me parliez.
Le rouge, alors bleu. Non, or, bleu, blanc, rouge, ça me plaît qu'à moitié, ça. Non, là, du rose, là, du bleu, un peu, pas trop. Là, pour suite, quelque chose de latine, et puis, bah voilà, salut la compagnie, salut les copains.
Mais si tu revenais, je sais bien que rien n'y ferait.
De toute façon, t'en fais pas, parce que je te ferai des signes, tu sais, te fais pas de mouron, hein.
Vous qui aimez les acteurs, pour ça, j'ai dit, vous avez dû être servi avec John Balibar,
oui,
non?
Complètement, ouais. Mais ce qui est amusant, là, quand on écoute la scène, c'est qu'en fait, on a monté aussi, pas que l'image, on a monté dans le son.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on a remplacé, enfin voilà, parce qu'on a refait un peu le dialogue, et donc on passe d'une voix à l'autre.
Et, voilà, et parfois, vous entrez dans l'archive aussi. Hein, non, oui, elle est pas. Par exemple, il y a un mouvement de main de Barbara. Il y a un magnifique raccord sur les mains de Mathieu Amalric qui dessine sur le tableau.
Ah oui.
Mais oui, ben ça. Ça se joue à ça un film aussi.
Et oui, c'est ça. Mais si vous voulez, Jeanne avait comme ça pendant des mois travaillé la musique. Elle a dit, mon travail, non, mais écoute, le scénario, je vais travailler la musique. Et puis elle avait, comme c'était imbibé de milliards de phrases de Barbara.
Oui.
Donc elle pouvait, à tout moment, en fait, pas être Barbara du tout. Comme elle dit, elle fait son métier, elle est actrice, elle joue. Elle joue. Et voilà, c'était de sortir comment... Tu fais quand tu as cette histoire du biopic pour sortir du problème de ressemblance par ressemblance et essayer de raconter autre chose.
Et toujours un mystère à la fin, et toujours mystérieuse à la fin.
Voilà. C'est-à-dire avec Philippe Di Folco, quand on écrivait, je me souviens, on avait un mantra, c'est on connaît pas la vie des gens. Et commencer un biopic comme ça. Voilà.
François, j'ai dit, pourquoi vous dites que c'est avec Mathieu Amalric que vous prenez le plus de risques? Pourtant, vous avez travaillé avec Chéreau, avec Garrel, avec Van Trier, avec De Palma, avec Berry.
Non, bah, c'est lui qui prend le risque, parce que c'est quand même lui qui a son nom sous le titre. C'est parce qu'il a une façon. Par exemple, sur le dernier film. Ça s'appelle pas scénario, ça s'appelle outil de travail. Bon, c'est une coquetterie, mais en même temps, il change les choses tous les jours, il réécrit tous les jours.
Alors que vous montez simultanément.
Je monte simultanément. Ouais. Il s'est très bien attrapé des accidents, une rencontre, quelque chose au plateau. Et puis, il a aussi pris comme principe de tourner aussi en plusieurs époques. Donc, on monte une chose, Et voilà, on se retrouve devant un objet qui n'est pas encore un film.
Oui.
Et après, à partir de ça, il va aller retourner. Mais c'est surtout qu'il y a toujours un moment où on pense que ça ne marchera jamais. Enfin, moi, sur tous les films, peut-être c'est mon naturel anxieux, mais il y a vraiment un long moment dans le montage où on pense que ça ne fera pas un film.
Et pareil pour vous, Jean-Baptiste Durand et Perrine Descartes.
Ce moment-là, il est affreux. Hein. J'ai pensé aller en Turquie, me faire greffer des cheveux, laisser une lettre anonyme. Et dire, en fait, mais en vrai, à partir du scénario, le scénario, on fait ce qu'on peut avec notre imaginaire. Mais à partir le tournage, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et le temps qu'on a. Et le montage, on fait ce qu'on peut avec les rushs qu'on a, quoi. Et point à la ligne. Et il y a une logique interne. Bah, c'est du mécano, comme tu dis, mais à part qu'au mécano, il y a une solution. Et la solution, elle va apparaître au fur et à mesure. Et on est obligé de voir les étapes. Et quand la première fois qu'on a vu la V1, là, j'étais catastrophé. Hein.
Ouais.
Ouais, c'était dur. Hein.
C'est une bonne nuit. Non.
Et Perrine, pareil, c'est le même système. Il tourne et vous montez parallèlement. Et...
Oui, on a fonctionné un peu de la même manière. Après, oui, je pense que sur tous les films et tous les montages, il y a des moments de doute. Et forcément, on en passe par des endroits où on a l'impression que... Oui, qu'on n'y arrivera jamais, mais à la fois, j'ai l'impression que c'est un peu aussi à nous de garder la foi et d'essayer de porter aussi un peu les réalisateurs quand ils sont dans des moments parfois très douloureux, quoi, aussi, parce que c'est vrai qu'il y a un fantasme, un désir qui est modifié par le tournage et qu'on doit retrouver, réinventer les choses un petit peu. Et je trouve que ça fait aussi partie de notre métier et c'est aussi une des choses que j'aime bien moi dans ce travail, c'est aussi d'aider le réalisateur à recroire en son film et à retrouver l'âme de son film.
Oui, parce qu'on perd la foi parfois.
Ça m'est arrivé une fois après la première V1, une nuit, et après on a fait les professeurs Folding dans la journée, on a vraiment pris des risques, inversé des blocs et tout d'un coup on l'a revu à la fin de la journée, on a trouvé le film, donc ça allait.
Oui, c'était assez rapide.
Il n'y a pas eu trop de buts, mais la nuit elle était dure. Hein.
Justement, il y a une scène, vous m'avez parlé, Perrine Descartes, de voiture que vous deviez mettre plus tôt et que vous avez mis plus tard entre Miralles et Dog. On écoute cette scène.
T'as rien à me dire. Je veux dire quoi ? Je te dis pas, tu dois dire quoi ? Je te demande si t'as rien à me dire. Je sais pas. D'accord, donc en fait, le concept, c'est si je parle jamais, tu parles jamais, c'est ça ? Si. Bah non. Quoi, ça te fait chier d'être avec moi ? Non. Bah si. T'aimes bien passer du temps avec moi, genre ? Ouais. Et ça te casse pas les couilles d'être avec quelqu'un qui fait que de parler tout seul toute la journée, non ? Je parle pas tout seul. Ta gueule. Je parle tout seul, je débite, je jette des mots contre un mur qui me les renvoie pas. Tu me dis qu'il faut que je parle. Est-ce que, tiens, si je te dis meurs, tu vas mourir ou pas ? Je te dis saute par la fenêtre, tu te jettes ? C'est à cause d'Elsa ? Pas du tout, je suis très content pour toi.
C'est un gros enjeu de dramaturgie d'enchaîner la casse à Jean-Baptiste Durand, parce que cette scène qui doit se passer très très tôt, vous la mettez tard. Pourquoi ce choix ?
Bah, effectivement, c'était la scène avec des mots de scénariste, c'était le point de non-retour du film, donc il se passait quasiment 20 minutes, à la 50e minute de film à peu près, juste après le scénario. Même Dog était en couple avec Elsa à l'écriture. Et donc, c'est vraiment cette inversion-là qu'on a fait la journée après ma grande détresse, qui a complètement modifié la structure du film et qui était la bonne structure. Et pourquoi ? Parce que je vais laisser Perrine parler.
Moi, je pense que c'est une conséquence d'un autre choix qu'on a fait dans le montage.
Bah oui, d'où le montage, effectivement, la construction.
Ouais,
quoi.
Du château de cartes qui s'effondre aussi.
Bah oui, on enlève une pièce, ça s'écroule un petit peu.
Un petit peu, ouais, il faut tout repenser. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus partie de la scène du restaurant qui, elle, venait beaucoup plus tôt aussi dans le film. Et je pense qu'il nous est apparu à un moment comme justement ce point de non-retour dans l'humiliation et dans la violence. Et qui nous racontait qu'en fait, enfin, on a eu le sentiment qu'en fait, il pouvait plus rien se passer après ça entre eux, quoi. Que ça allait trop loin. Mmh. alors qu'à l'écriture c'était pas ça, enfin en tout cas c'était proche de l'écriture quoi, c'était même le texte, mais en tout cas ce qui s'est joué là nous racontait autre chose. Et donc on a dû reconstruire les choses autour de ça. Ils pouvaient plus aller jouer au foot ensemble après, ils pouvaient plus aller parler du Canada et toutes ces séquences pouvaient plus venir après. Ça nous est apparu comme une évidence. Et du coup, ce dont je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, parce que j'ai fait l'exercice de revoir le film avec le scénario à côté pour voir ce qu'on avait modifié. Et en fait, ce qui m'est apparu, c'est que en fait, pendant 20 minutes de film, ils vont plus parler. Et ça, au scénario, ça n'existait pas. Et jamais ils se quittaient. Et là, c'est vrai que je pense que c'est ça qui a vraiment tout modifié. Enfin, le plus important changement quoi, entre le scénario et le film, c'est qu'au final, on les a séparés pendant 20 minutes, ce qui n'était pas du tout prévu. Et puis cette séquence du coup de voiture vient les reconfronter à nouveau quoi, nous permet de les retrouver ensemble.
François, j'ai dit on peut discuter des heures et puis pas monter forcément. Hein. On peut discuter beaucoup dans une salle et puis quand même.
Moi, je parle assez peu.
Ça passe. Non. Mais moi je dors. En fait, c'est très important
de dormir.
Bien sûr.
Mais non, ce qui est important, c'est de faire parler le réalisateur, en fait, et de l'écouter, et de temps en temps d'attraper une idée quand on a l'impression que ça peut nous faire avancer. Ouais. Moi, je parle pas beaucoup, je suis pas très disert en disant ah c'est formidable, ou c'est, enfin, mais voilà.
Vous êtes de trois quarts d'eau, haussement d'épaule.
Ouais, exactement. Ouais. C'est pour ça que ça a été difficile pendant le Covid de continuer un film à distance.
Ouais.
Parce que en fait, tout se passe là-dessus. C'est-à-dire sur se retourner à un moment, faire face au réalisateur. Puisqu'on est tous les deux face à l'écran, donc il y a un moment où on se retourne vers lui ou pas. Oui, ça se passe parfois parce que le réalisateur propose quelque chose et qu'on pense que oui, c'est une bonne idée, mais peut-être qu'il y a une autre façon de le faire et où il propose quelque chose et c'est juste sur un haussement d'épaule qu'on ne va pas le faire.
Ça peut être décevant quand vous aimez, par exemple, Mathieu, quand vous aimez une scène, hein, et puis votre monteur ne vous suit pas dans cet enthousiasme.
Non, c'est ça, c'est cette espèce de... Non, c'est une vibration commune. Et puis moi, j'aime beaucoup ne absolument rien comprendre au clavier là qui est en train de toucher. Et je regarde beaucoup aussi ses mains et puis je regarde ce qui défile. Et souvent, le hasard crée... Voilà, tout d'un coup, le film passe en accéléré. C'est à peu près ça le dialogue.
Voilà. Deux grands bavards. Et vous deux, alors c'est plus...
Moi, je suis bavard, justement, on rigole bien.
Ouais, on parle beaucoup, nous, quand même.
On parle pas mal, mais pas forcément de ce qu'on est en train de faire. Non, mais des fois, ça évoque des moments de tendresse sur le tournage, et des fois, de ces discussions un peu abstraites et abscons, presque, et de rigolade, va émerger une idée qu'on n'avait pas prévue. C'est une façon d'être focus un peu différente. Mais comme pour me concentrer, moi j'ai besoin de faire le zouave à côté, puis je suis hyper focus après.
Est-ce qu'il arrive qu'une scène que vous adorez ne sera pas au montage finalement ?
Je vais te dire, Christine, moi j'adore qu'une scène que j'adore soit pas au montage. À chaque fois, c'est comme si j'avais marqué un but. Dès qu'une scène sautait, j'étais hyper content. Je me disais, ça veut dire qu'on est en train de trouver le film.
Ah ouais ?
Ouais.
Et Perrine, pareil ?
Moi, j'y trouve pas particulièrement de plaisir. Enfin, parfois, c'est juste que c'est vrai que c'est, il y a quelque chose qui était très facile avec Jean-Baptiste. C'est vrai que pour certains réalisateurs, c'est pas forcément évident de faire le deuil de certaines séquences qu'on a envie de voir exister dans le film. Et pour un tas de raisons, parfois, elles n'appartiennent pas au film et il faut s'en séparer. Et ça peut être long comme processus. Et pour Jean-Baptiste, c'est quelque chose d'assez facile. Donc, ouais, c'est pas mal.
On va passer une scène dont vous ne vouliez pas, Perrine.
Ah.
Et à laquelle tenait Jean-Baptiste Durand.
Le Québec, c'est loin du Canada.
Tu te rends compte, là, de ce que tu dis, ou...
Non, je confonds...
Tu réalises le niveau de bêtise de ce que tu dis, ou pas, du tout?
Peut-être je confonds avec un autre...
En fait, écoute, c'est comme si tu disais, là, et la Bretagne, en fait, c'est à côté de la France, c'est ça?
Je m'en bats les couilles de la Bretagne.
T'en bats les couilles d'un peu trop de choses et c'est bien ça le problème. Il devient un botch à force de s'intéresser à rien, de pas avoir de culture, pas de curiosité.
Si, je m'intéresse.
T'intéresses à quoi?
Je sais pas.
Ah, voilà.
J'espère qu'au moins l'armée aura l'avantage de t'ouvrir un peu, élargir un peu tes horizons, parce que sinon, n'est pas rendu. Hein. Le pire, c'est qu'il est intelligent, mais comme il a ce gros poil dans la main, ben voilà. Ça en devient dramatique de bêtises et on a ce... un imbécile heureux.
Vous disiez, Mathieu Amalric, sur le jeu de... de Raphaël Quenard.
Enfin oui, avec Anthony. Enfin,
ouais, oui, avec Anthony Bajon.
Le silence, les trucs que... cette pulsation, le rythme qu'il y a dans le jeu des acteurs, c'est vraiment ça, la jouissance.
Périne Descartes, vous disiez que en fait, ça l'écrasait encore plus, le personnage de Doc, cette scène.
Bah évidemment, moi je la trouve magnifique, cette scène, et puis le jeu est super. C'est pas du tout dans les qualités de la séquence, c'est pas les qualités de la séquence que je remettais en cause, mais c'est vrai que moi, je me posais la question, parce que forcément, on essaie de traverser les trajectoires émotionnelles des personnages aussi, et peut-être ma sensibilité faisait que je trouvais que ça allait trop loin, et qu'il y avait quelque chose qui amenait le personnage de Doc peut-être un peu dans une forme de bêtise qui, moi, me plaisait pas. Et à la fois, cette humiliation, elle existe par endroits dans leur relation, parfois... Ouais. C'est des trucs de jauge, quoi, et des endroits où on se pose des questions sur si on va trop loin, si peut-être qu'on veut préserver aussi nos personnages, parfois, de certaines choses. Donc c'est vrai que ça a fait débat. Au final, je trouve qu'elle a tout à fait sa place, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me posais la question de cette séquence. Ouais.
Et vous aussi, pour ça, j'ai dit, il y a des plans que vous aimiez qui n'apparaissent pas au montage, et ça vous fait quelque chose, ou vous êtes comme Jean-Baptiste Durand, en disant, ça...
Non, moi, c'est pour ça que je reste un peu loin du tournage, parce que j'ai pas besoin, il faut pas que je sache quelle a été la difficulté pour tourner ce plan, que l'actrice était, que tout le plateau était en larmes. moi, je regarde ce qu'il y a dans le cadre. Je regarde, et avec une assistante ou un assistant, et je regarde, qui est qui est la première personne à qui je montre ce que je fais avant de le montrer au réalisateur. Et déjà, c'est une réaction. Déjà, de toute façon, quand on regarde une séquence avec quelqu'un à côté, déjà, on voit tout de suite quand c'est trop long, trop court. Donc, c'est très important d'avoir une assistante ou un assistant à la salle de montage. Pour Barbara, c'était
troisième frais.
Et ça, c'est vraiment... Et en ce moment... Alors, ça, c'est pour parler d'autres. En ce moment, ça devient très difficile pour les jeunes monteurs d'avoir un assistant... On prend des gens dans des boîtes de post-prod qui vont travailler juste pour synchroniser les rushs. Et je trouve que c'est, et pour la transmission, et pour le travail même, parce qu'un assistant, c'est pas seulement qu'il fait des choses techniques, mais c'est qu'il a une importance humaine dans la salle de montage. Et c'est une catastrophe.
C'est ça, les salles de montage, on parlait tout à l'heure, il faut pas que des connards rentrent, parce qu'on est que deux, parce que, quitte à même maintenant être tout seul. Ouais. Je sais pas, je pense à Annette Dutertre, une monteuse, quand elle était assistante sur Adultère Mode d'Emploi, un filmé, ce que c'était qu'une salle de montage en film. Tout le monde vient, parce qu'il y avait que le téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait tout ça. Donc, vous avez le compositeur, vous avez les acteurs qui passent, et cette communauté dans la salle de montage crée quelque chose d'extraordinaire. Et on parle d'Esther, Fréki, l'assistante. Voilà, moi, ce qu'on essayait aussi de faire sur le tournage, c'est de faire des séances de rush en commun, qu'on aille dans une salle
sur un grand écran,
toute l'équipe regarde quelque chose. Moi, j'adore, j'ai jamais regardé les rushs, et on se met tout nu. Je sais que c'est Esther et François qui vont découvrir. Toutes les imperfections, enfin tous les ratages, tout ce qui va pas, et de ça, ils vont nous envoyer chaque semaine un plan, et on va le regarder avec l'équipe sur le plateau.
Vous restez tous les quatre avec nous.
Donc on rappelle peut-être le festival.
Ah oui, le festival.
Les monteurs s'affichent du 13 au 18 mars à Paris, au cinéma, le Lumineur Hôtel de Ville. Et c'est évidemment, on peut y aller tout le monde. Voilà.
Ouais. Et vous allez commenter d'ailleurs donc Chaîne Lacasse.
Oui, on va avoir un échange après le film.
On se retrouve pour les sorties après Alyosha Schneider, Ensemble.
La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant. Te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant. Te retrouver, tu me manques.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
On se disait qu'il y avait encore tellement de questions à poser sur le montage, oui. On y reviendra, et notamment sur terminer un film. Ça, c'est un vrai sujet. On va commencer par les films de cette semaine, par La Salle des Profs, le film allemand de Ilker Katak. Alors qu'une série de vols a eu lieu en Salle des Profs, Carla mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes. Une seule femme, seule contre tous, dans une spirale de victimes à coupables, jusqu'au malaise et au cœur du propos, Laurent, les préjugés sociaux, la discrimination, le fossé culturel, c'est intelligent, subtil, hyper bien mené, et dans le cœur de ce film, une grande actrice, Léonie Benesch.
Oui, oui, absolument. Alors, moi, je suis juste un peu interloqué par la communication du film.
À savoir.
Qui, thriller haletant, mais d'où ils sortent ça, thriller haletant? Et le génie de les communicants, c'est que des journalistes reprennent ça, c'est-à-dire que dans la presse, on lit, ah oui, c'est un thriller.
Je l'ai pas dit.
Non, mais vous l'avez pas dit, bien sûr, mais parce que vous êtes une excellente spectatrice. Mais évidemment, non, mais enfin, franchement, c'est ridicule.
Cela dit, c'est tendu, hein. C'est
oui,
tendu de
c'est
bout
tendu,
en
mais
bout.
C'est ni
sur
un thriller.
Petit vol dans une école, c'est oui. Hyper tendu,
mais,
quoi.
Mais franchement, les communicants me mettront toujours en joie. Bon, bref, parce que c'est au contraire, c'est pas au contraire, mais c'est certainement une fable absolument cruelle, absolument réaliste, qui nous interroge, nous chacun, les profs, les parents, les élèves et l'administration. Chacun en prend pour son grade. Il n'y a pas de caricature. C'est vraiment au plus près de la réalité, y compris la prof principale, qui n'est pas une sainte laïque, contrairement en général à la Vulgate. Mais résultat, c'est un film, effectivement, qui explore, à partir d'une situation de départ qui est après tout assez banale, enfin commune, une explosion incroyable dans cet établissement scolaire, et qui montre, si besoin était, que le système allemand qu'on nous vante toujours comme l'Éden paradisiaque souffre des mêmes maux que chez nous, c'est-à-dire des affrontements internes incroyables.
Boléro et Dan Fontaine avec Raphaël Personnaz, Dora Tillier et Jeanne Balibar. En 1928, alors que Paris vit au rythme des années folles, la danseuse Ida Rubinstein, c'est Balibar justement, commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. Tétanisé et en panne d'inspiration, le compositeur feuillette les pages de sa vie. Ses entrées autour de la personnalité du compositeur, un artiste insatisfait. Résultat, de très beaux décors, de très beaux costumes, une image soignée, une Balibar étincelante, certes, mais dans un film tellement académique, tellement à la surface des émotions, Laurent.
Tellement. Alors, le point premier, c'est qu'on a quand même évité un biopic au sens propre du terme, parce que heureusement, on choisit quand même de nous raconter la naissance d'un morceau qui est devenu un tube interplanétaire. Le seul petit souci, c'est que ce morceau ne plaisait pas beaucoup à son compositeur. C'est un paradoxe quand même de choisir le morceau que Ravel a composé et qui lui semblait pas, à mon avis,
une musique vide de musique.
Mais oui, exactement. Ouais. Bon, alors donc c'est quand même absolument paradoxal, ce qui fait que d'autres morceaux auraient pu être choisis qui sont beaucoup plus complexes et riche d'un point de vue musical. Alors reste un Raphaël Personnaz qui, je trouve, campe un personnage qui est intéressant parce qu'il est justement du côté sombre, et c'est ce côté-là qu'on aurait aimé voir dans le film, et pas effectivement cette espèce d'album académique.
Blue Jean.
Ouais, vous êtes dur. Ouais. J'ai été troublé par le silence. Non, il y a quelque chose sur la naissance, la recherche d'une mélodie qui lui échappe complètement. Qui vient de, on ne sait pas où. Il y a un mystère comme ça qui m'a pris, moi.
Bon, allez vous faire votre opinion.
Un autre film sur la musique, c'est un film d'animation japonais qui s'appelle Blue Giant de Yuzuru Tachikawa. C'est la vie de Dai qui change lorsqu'il découvre le jazz. Il va alors, il s'entraîne au saxophone, il arrive à Tokyo et il veut monter le plus grand groupe de jazz et changer un peu les normes. C'est une merveilleuse plongée en animation, bleu nuit dans le jazz et des scènes de concert fiévreuses, le souffle, la sueur, la performance, la frénésie, la transe. C'est comme de la musique pour les yeux, en fait.
Oui, oui, je trouve que c'est vraiment un travail incroyable. À partir de ce vrai-faux biopic, qui est d'autant plus intéressant, d'ailleurs, qu'il n'est pas centré que sur un personnage,
non,
mais plutôt sur trois, sur un trio de jazz, évidemment. Et cette façon qu'a l'animateur, le réalisateur, l'auteur de tenter et de réussir, de montrer en animation l'incroyable diversité du jazz, les ruptures, les syncopes, les moments forts, la batterie, c'est incroyable de virtuosité. Moi, je crois que j'avais jamais vu ça au cinéma, cette approche musicale-là, venant après Boléro, pardon, Mathieu Amalric, franchement, on a une autre proposition musicale.
Les carnets de Siegfried, c'est le dernier film du Britannique Terence Davis. En 1914, le jeune Siegfried Sassoon, poète en devenir, est enrôlé dans l'armée britannique, de retour du front, révolté par ce qu'il a vu. Il devient objecteur de conscience, ses pamphlets pacifistes lui valent sa mise au banc de la société. C'est proustien, a écrit un critique. Alors oui, des phrases, des scènes interminables dans un récit déconstruit, très puissant sur les ravages de la guerre de 14-18, filmé comme un western, plus répétitif sur lui et ses amants.
Oui, je vous trouve un peu sévère. C'est le dernier film et posthume d'un grand cinéaste, hein, quand même, Terence Davis, dont on peut d'ailleurs voir l'intégralité des films en ce moment au Centre Georges Pompidou à Paris. Petite incise. Au fond, ce qui est très touchant dans ce film, c'est que la vie en a décidé ainsi. C'est un autoportrait absolument crépusculaire. Au fond, ce personnage principal, c'est Terence Davis, avec effectivement cette sexualité, cet environnement mondain, la création artistique et cet autoportrait testamentaire, moi je trouve, est extrêmement touchant.
Les carnets de Siegfried, ça s'appelle. HLM Pussy, c'est un premier film de Nora El Hirsch. Amina, Jeneba et Zineb, trois adolescents inséparables, postent sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en cause l'agresseur de l'une d'entre elles. Elles doivent choisir entre sauver leur amitié ou céder face aux pressions. Beaucoup d'énergie et pas mal de maladresse aussi dans ce premier film. Amitié, sororité, consentement, un sujet pourtant nécessaire, MeToo en banlieue.
Oui, on aurait aimé que la réalisatrice prenne un peu plus l'ascendant sur ses actrices, en quelque sorte, c'est-à-dire fasse son boulot, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc du coup, le film est effectivement porté par les actrices, mais par elle seule.
Ouais, mais belle énergie, tout de même. Inch'Allah, un fils, c'est un premier film de Jamad El Rachid. Jordanie de nos jours, après la mort soudaine de son mari Nawal, 30 ans, doit se battre pour sa part d'héritage afin de sauver sa fille et sa maison dans une société où avoir un fils changerait la donne.
Rien de novateur de ce film jordanien, mais qui décrit une réalité qui à chaque fois quand même nous colle sur notre chaise, parce que on découvre des réalités incroyables. Et puis il y a une actrice qu'il faut citer, Mouna Hawa, dans le rôle de cette espèce de mère courage absolument formidable. Donc il n'y a pas de surprise, mais il y a un film qui est absolument prenant.
Chikun d'Amos Gitai, inspiré de la pièce de Jean Ionesco, Le Rhinocéros. Le film raconte l'émergence de l'intolérance et de la pensée totalitaire à travers une série d'épisodes quotidiens qui se déroulent douce dans un seul bâtiment. Le Chikun, c'est un film concept, comme souvent avec Gitai, métaphore politique, anti-totalitaire et abstraite aussi. Quand même.
Oui, enfin disons le mot concrètement, anti-Netanyahou. Oui. Le film a été fait avant
le 7 octobre
et ce qui a suivi, le propos du cinéaste très politique, très engagé, qui est Amos Gitai, ressort de tout ce film, porté d'ailleurs par le jeu d'Irène Jacob, qui joue plusieurs personnages, et une musique de Louis Clavis sur laquelle je voudrais insister.
Vous avez joué avec Amos Gitai,
oui.
Dans un bus, je me souviens.
Un tramway. À Jérusalem, oui.
Et oui. Et on rappelle la sortie, même si on les a reçus, de Comme un fils, de Nicolas Boukreyev, très film, très minéral, avec Vincent Lindon, qui va s'occuper d'un jeune garçon rom et qui va redécouvrir sa vocation de professeur.
Deuxième film avec un prof en personnage principal, c'est pas fini.
Et La vie de ma mère, de Julien Carpentier, premier film avec Agnès Jaoui et William Lebgill, sur les retrouvailles d'un fils et de sa mère bipolaire.
Deuxième film en Agnès Jaoui, mère juive. C'est les contes de la semaine.
Oui, avant les cadeaux, juste dire que le cinéma tellement intrigant du réalisateur australien Peter Weir, les mondes parallèles de Peter Weir à la Cinémathèque, il sera là, l'occasion de voir sur grand écran Picnic à Hanging Rock, l'année de tous les dangers, Witness, Mosquito Coast, Le Cercle des Poids Disparus, The Truman Show, Master and Commander. Et moi je me rappelle cette scène dans ce commissariat, dans ce commissariat, lorsque le petit garçon Amish, qui a été témoin d'un meurtre, découvre la photo du coupable, un montage, alors là c'est un vrai travail de montage, de jeu de regard, une tension créée uniquement par ce découpage de regard. C'est absolument magnifique. Je m'adresse à vous, Jean-Baptiste Durand, pour que vous le découvriez, ce grand cinéaste. Voilà. On va passer au cadeau, Laurent.
Oui, pour vous, Perrine Bécart, un documentaire, Notre Corps, de Claire Simon. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est sorti très récemment. On avait reçu Claire Simon, parce qu'on avait adoré ce documentaire, monté, je le dirais aujourd'hui, plus précisément par Luc Forveille. C'est chez Blackout, ça dure 2h49, et c'est sur les femmes, l'hôpital et la maladie, et c'est absolument poignant, prenant et passionnant.
Génial, merci beaucoup.
Notre Corps, de Claire Simon, chez Blackout. Pour vous, Mathieu Amalric, je ne sais pas si là aussi vous avez vu ce film qui est sorti cette année, Fermez les yeux, de du cinéaste espagnol Victor Erice, vous l'avez vu
au cinéma, bien sûr.
Bon, bien entendu, et ben vous le reverrez en DVD, édité chez Blackout. Le monteur s'appelle Hachem Marchena, et c'est évidemment un film entre passé et présent. Le point de départ, c'est un homme disparaît. Voilà. Oui. Donc après, tout est possible, évidemment. Pour vous, François Gédigier, un grand classique du cinéma français, Remorque, de Jean Grémillon, avec le tandem Gabin-Morgan, qui à mon avis est plus intéressant que dans Quai des Brumes, mais c'est mon avis personnel. Le film était monté par Yvonne Martin, le DVD est édité par MK2 Carlotta, c'est évidemment Prévert, et c'est la première fois qu'il est en Blu-ray, ce très grand classique du cinéma français.
Et
dernière chose, Jean-Baptiste Durand, on vous offre cette perle, cette rareté, L'Inconnu de Chandigore, un film de Jean-Louis Roy, musique de Gainsbourg, avec l'étonnant Daniel-Émile Forc. Et c'est un savant qui a conçu une machine qui s'appelle l'Annulator. Voilà.
Merci Perrine Bécart, merci Jean-Baptiste Durand, merci François Gédigier, merci Mathieu Amalric, ces deux beaux duos, réalisateurs, monteurs, on y reviendra sûrement dans une autre émission. Merci à notre belle équipe, Xavier Pestudia, notre réalisateur, Christophe Magère à la préparation, Thierry Dupin à la programmation musicale. Au revoir.
Au revoir.